En introduction, je voudrais vous dire que j'ai eu à cœur de pouvoir, eh bien, ce matin, parler de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ qui est, il faut le dire, un véritable chef d'œuvre. Vous l'avez compris, quand je parle de l'Église de Jésus-Christ, je ne veux pas faire mention d'un bâtiment quelconque. Non, je veux faire mention, eh bien, de l'ensemble des croyants, de l'ensemble des rachetés. Je veux parler de ceux et de celles qui se sont repentis, convertis à Dieu, qui sont passés par les eaux du baptême et qui sont maintenant partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ. Je veux parler de vous. Je veux parler de moi-même. Ce matin, j'aimerais parler de l'Église de Jésus-Christ et mettre en évidence eh bien, trois vérités, comme c'est déjà projeté sur le vidéoprojecteur, trois vérités concernant l'Église de Jésus-Christ. J'aurais pu dire trois comparaisons concernant l'Église de Jésus-Christ. La première qui me tient à cœur, que j'aimerais partager avec vous concernant l'Église de Jésus-Christ, c'est que l'Église est le corps de Christ. Alors, ce n'est pas un corps physique, c'est un corps spirituel, quoique physiquement, nous sommes là présents et nous faisons partie intégrante de ce corps. C'est le souverain sacrificateur, ou si vous voulez, le chef religieux des Juifs, à l'époque de Jésus, un certain Caïphe, qui a prononcé une phrase, j'ai envie de dire prophétique, concernant le Seigneur Jésus et qui va confirmer ce que je suis en train de vous dire eh bien, en cet instant. Quand on lit Jean chapitre 11 et le verset 50, cherchez avec moi s'il vous plaît Jean chapitre 11 et le verset 50. C'est juste après la résurrection de Lazare. Le conseil religieux de l'époque s'est réuni et le souverain sacrificateur s'est exprimé en ces termes, on peut le lire même à partir du verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et il est précisé, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. » Autrement dit, à son insu, ce souverain sacrificateur du nom de Caïphe a bien prophétisé de la part de Dieu et a révélé qu'il fallait qu'un seul puisse mourir pour toute la nation, et il faisait allusion là au sacrifice de Jésus. Mais il va eh bien, nous apporter aussi une autre précision, c'est l'évangéliste Jean qui nous l'apporte au verset 52. Il dit « Et ce n'était pas pour la nation seulement eh bien, qu'il prophétisait, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Vous savez, frères et sœurs, on est à des lieux de soupçonner tout ce qui s'est passé à la croix. Souvent, quand on fait mention de la croix, on parle du sacrifice de Jésus, sa mort qui nous a permis d'être pardonnés de nos péchés. Mais à la croix, des choses extraordinaires, alléluia, se sont produites. C'est pour ça que l'œuvre du Seigneur ne sera jamais reproduite. L'œuvre du Seigneur à la croix a été absolument unique. Et il n'y a que Dieu seul, Jésus seul qui pouvait l'accomplir. À la croix, Jésus a permis que le corps de Christ puisse être littéralement rassemblé. Que l'Église de Jésus-Christ puisse être conçue. On le voit aussi dans Actes chapitre 20 et le verset 28. Regardez ce qu'il est dit. C'est l'apôtre Paul qui encourage les serviteurs de Dieu qui étaient à la charge de différentes églises locales. Parce que bien sûr, l'Église de Jésus-Christ est composée et dispersée sur toute la surface de la terre par des églises locales qui sont localisées géographiquement, comme ici, l'Église d'Istres. Et nous lisons dans Actes chapitre 10, verset Actes chapitre 20, verset 28, excusez-moi. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Si vous voulez savoir à quel moment l'Église a pris naissance, c'est à la croix. Il a vu son jour, vous le comprenez bien, 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur ces environ 120 qui étaient réunis dans la chambre haute. Et après le discours de Pierre, 3000 se sont convertis. Là, l'Église a été visible. Elle a vu le jour à ce moment-là, mais elle a pris naissance à la croix. Et ça, c'est une réalité. Il y a eh bien, aussi d'autres passages que nous pourrions lire et qui confirment que l'Église est aujourd'hui le corps de Christ. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Excusez-moi, je vais vous faire lire ce matin. Mais rassurez-vous, on va lire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Et j'entends le bruit de feuilles et ça, c'est réjouissant. Romains chapitre 12 et le verset 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que nous comprenons cette réalité ce matin ? C'est une vérité. Nous sommes tous membres les uns des autres. Et si avec ce verset, j'en ai d'autres à vous présenter, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Je suis le membre de Christ. Alors, est-ce que je suis au niveau de l'oreille? Est-ce que je suis au niveau de la bouche? Est-ce que je suis au niveau du cœur? Est-ce que c'est vraiment important? Ce qui est important, c'est d'être partie intégrante de ce corps. Un autre passage, Éphésiens chapitre 5, verset 23, qui nous apporte encore une autre précision concernant l'Église de Jésus-Christ. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et là, il y a une autre information qui nous est donnée. L'Église est un corps spirituel dont Jésus lui-même est la tête. Les frères dans la foi qui sont à nos côtés, les sœurs dans la foi qui sont à nos côtés également, sont tous, comme nous, partie intégrante du corps de Christ et Jésus lui-même en est la tête. Et à cet effet, je voudrais peut-être m'attarder encore sur ce point et peut-être relever deux, trois remarques avec vous. Premièrement, parce que nous sommes partie intégrante du corps de Christ. Toute action, bonne ou mauvaise, que nous ferions à l'égard d'un des membres de ce corps spirituel est automatiquement ressentie par la personne de Jésus-Christ. Est-ce que nous le réalisons, ces choses ? Tout ce que je pourrais faire de bien ou de mal à l'égard de mon frère, de ma sœur, le Seigneur lui-même, directement, ressent ces choses. Et on le constate quand eh bien, le Seigneur Jésus lui-même a été amené à pouvoir arrêter, vous savez de qui je veux faire mention, Saul de Tarse. Saul de Tarse qui, avant d'être l'apôtre Paul, a été ce véritable, on peut le dire, terroriste. Parce qu'il terrorisait l'Église. Et il partait sous le chemin qui le menait sur la ville de Damas pour arrêter tout ce qui pouvait s'appeler chrétien. Et c'est alors que le Seigneur, par une lumière glorieuse, a arrêté eh bien, sa course folle. Et ce qui est des plus étonnant, c'est quand Jésus lui-même a parlé du haut du ciel et a dit, Actes chapitre 9, verset 4, la Bible nous dit, Paul tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Au fait, en touchant à l'œuvre de Dieu, en touchant à l'Église de Jésus-Christ, il touchait à la personne même de Jésus. Quand nous faisons du tort à un membre de l'Église, c'est à Jésus-Christ que nous le faisons. Alors à l'inverse, bien sûr, quand nous faisons du bien à un des membres de l'Église, en réalité, c'est à Jésus que nous le faisons. Même le verre d'eau servi à l'un de ses plus petits. Je regarde Jeanne, qui souvent me propose un verre d'eau. C'est à Jésus-Christ que nous le ferons et que nous le faisons. Vous savez, je me rappellerai toujours, et je crois que j'ai déjà donné ce témoignage de ces deux sœurs jumelles qui se trouvaient dans une église dont je tairai le nom. Et il y en avait une qui avait, j'ai envie de dire, de l'ascendance sur l'autre. Et qui avait tendance même à mépriser sa sœur jumelle. Et ce qui m'a marqué, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, tu vois l'attitude méprisante de cette femme à l'égard de sa sœur. Eh bien, en réalité, c'est envers moi qu'elle agit ainsi. Et elle ne s'en rend même pas compte. Frères et sœurs, souvent on a du mal à faire des relations de cause à effet. Mais on sera surpris quand on comparaîtra devant le tribunal de Christ et que le Seigneur lui-même va nous dire « Mais quand vous avez visité l'un ou l'autre, mais c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez eh bien, visité le malade, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je me réjouis quand quelquefois je fais quelques visites, eh bien, certaines personnes à l'IT me disent « Ah, mais il y a tel frère qui est passé me voir, il y a telle sœur. » Moi, je me réjouis. C'est au Seigneur Jésus que nous le faisons. Et quand on a réalisé ces choses, eh bien avec plus de zèle, plus de force, eh bien nous servons, alléluia, le corps de Christ. Faisons attention en tout cas à ne pas porter atteinte aux membres du corps de Christ, qui sont nos frères et nos sœurs dans la foi. Une autre remarque que je voudrais relever concernant le fait que l'Église est le corps de Christ, eh bien justement parce que l'Église est le corps de Christ, elle est aussi appelée à continuer toutes les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a accomplies durant son ministère terrestre. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous appelle la lumière du monde. Il nous a dit aussi qu'on était le sel de la terre. Et il s'attend que nous soyons littéralement ses membres sur cette terre. La tête est au ciel, Jésus-Christ est assis, alléluia, à la droite de la majesté divine. Mais le corps, l'Église est encore sur la terre. Et spirituellement comme physiquement, nous sommes quelque part les yeux de Jésus-Christ. Les yeux de Jésus-Christ qui regardent le monde avec un regard de compassion et de miséricorde. Nous sommes également les pieds de Jésus pour propager la bonne nouvelle. J'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe chapitre 52. Il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je vous assure, vous allez peut-être rire, hein, la première fois que j'ai lu ce passage, oh, j'ai regardé mes pieds. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai regardé mes pieds. J'ai dit, Seigneur, je te bénis, je te loue. Quel honneur! Mes pieds, ils ne vont pas courir pour faire le mal, ils vont courir pour faire le bien. Pour dire aux gens qu'il y a encore espoir pour eux. Que nous soyons les pieds de Jésus ici-bas, cette terre, parce que nous formons eh bien, le corps de Christ. Nous sommes également les oreilles du Christ pour entendre les souffrances et les besoins des gens. Nous sommes les mains de Jésus pour bénir et secourir le prochain, quel qu'il soit, pour bénir même nos ennemis. C'est à cela que nous avons été appelés. Nous sommes le cœur de Jésus pour aimer notre prochain et même bénir notre ennemi. Nous sommes la bouche de Jésus pour intercéder pour les gens, pour leur dire qu'il y a encore espoir pour eux, pour leur dire qu'ils n'ont plus besoin de pleurer, parce que Jésus à la croix a souffert, il a même pleuré pour nous, une fois pour toutes, afin que nous soyons délivrés à bien de tout péché, mais aussi de toute infirmité, de tout fardeau, que Dieu soit béni. Une autre remarque que je pourrais faire concernant l'Église qui est le corps de Christ, je voudrais rappeler ce matin que parce qu'il est la tête du corps de l'Église, on l'a lu tout à l'heure, chacun pour notre part, nous devons être soumis à la volonté du Christ. Nos faits et gestes viennent des ordres transmis par notre tête. Ce matin, quand vous êtes levé, c'est votre esprit qui a demandé à votre corps de pouvoir vous lever, sortir du lit, vous doucher, faire tout ce qu'il y a à faire pour venir ce matin, oui ou non. Et c'est pareil pour le corps de Christ. Nous sommes reliés à la tête. Nous sommes intimement liés à la tête. Et si nos membres ne répondaient plus aux ordres de notre tête, ce serait vraiment le désordre. Hein, ce serait l'anarchie. Si ma main décidait d'aller à droite, ou bien mon pied droit décidait d'aller à droite et mon pied gauche décidait d'aller à gauche, j'allais faire un grand écart. Il y aurait un problème là. On m'emmènera à l'asile, vous savez où ? Un chrétien qui est vraiment un membre du corps de Jésus-Christ ne fera pas ce qu'il veut, mais parce qu'il est attaché à Jésus, qui est le chef et la tête de l'Église, ce même chrétien, il exécutera les ordres de Jésus-Christ. Vous savez, être membre du corps de Jésus-Christ consiste à servir les desseins de Jésus-Christ et pas à servir nos desseins. Quelquefois, certaines personnes se servent de l'Église pour servir à leurs propres desseins et leur propre gloire. Mais les véritables membres du corps de Christ cherchent une seule chose, à glorifier Jésus. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour glorifier Jésus. C'est que l'homme puisse diminuer, comme dit la Bible, et que Jésus puisse croître. Nous sommes partie intégrante du corps de Christ. Et la tête, nous recevons toutes les informations nécessaires. Et c'est pourquoi, quelque part, Paul met quelque part en garde certains chrétiens en leur disant, et on va lire ce passage, Éphésiens chapitre 2, versets 18 et 19, un verset, il me semble qu'on a déjà lu précédemment. « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Mais il y avait un autre passage, c'est pas celui-là, je pense que j'ai fait une erreur au niveau du verset. Mais il est dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et le verset suivant, le verset 19, dit « sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est pas beau ce passage-là ? Tout cela pour dire que tous les membres sont intimement liés à la personne de Jésus-Christ. Et je reconnais que je suis dans le corps de Christ si eh bien, je suis attaché à Jésus-Christ, si je reçois mes ordres eh bien, de la part de la personne de Jésus-Christ. Alors veillons à être partie intégrante du corps de Christ en étant solidement attaché à Jésus-Christ notre maître, Jésus-Christ notre chef, mais aussi la tête du corps de Christ. Que Dieu soit béni. L'Église est le corps donc de Christ. Il y a une deuxième vérité que j'aimerais placer devant vos yeux concernant l'Église. L'Église est aussi la fiancée de Christ. Amen ou pas amen ? Et lorsqu'on découvre ce passage, ces différents passages concernant eh bien, cette relation intime qu'il y a entre Jésus et son Église, eh bien, cela nous parle bien sûr de l'amour qui unit Jésus à l'égard de chacun d'entre nous. Ça nous parle de l'amour qui unit Jésus donc par rapport à son Église. N'ayons aucun doute sur le fait que Jésus nous aime profondément, frères et sœurs. Ne laissons jamais le diable remettre en cause l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Paul, dans son épître, a déjà prouvé les dimensions de l'amour de Christ quand il dit dans Éphésiens chapitre 5 et les versets 27 à 29 la vérité suivante, on va le lire ensemble. Marie aimée, Éphésiens chapitre 5 verset donc 29, oui. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Jésus a aimé l'Église au point de se livrer pour elle. Vous savez de quelle manière ? Quand il y a déjà 2000 ans de cela, plus de 2000 ans de cela, Jésus a bien accepté de monter, gravir ce mont qu'on appelait Mont Golgotha. Accepté d'être crucifié. On a enfoncé violemment des clous dans ses mains, dans ses pieds. Tout cela parce qu'il nous aimait, frères et sœurs. Tout cela parce qu'il voulait rassembler ce corps. Il voulait rassembler ses enfants, ceux et celles qui allaient croire en lui. Et tout cela nous prouve eh bien, que Dieu nous a tellement aimés. Alléluia, qu'il n'a pas épargné son propre fils, Jésus. Et Jésus a accepté de prendre notre place comme un parfait substitut sur ce bois infâme. Les clauses exclusives de l'alliance d'amour que Jésus a conclue avec nous, on le retrouve dans le livre d'Osée. C'est le prophète qui va prêter sa bouche à l'Éternel pour s'adresser au peuple d'Israël et va dire des choses merveilleuses. Un passage que j'aime beaucoup, et il nous est dit, Osée chapitre 2, les versets 21 et 22, et là il faudrait décaler, là, suivant les versions, attention, il faudrait remonter un peu plus haut, mon cher Pierre. Voilà. Vous voyez l'inconvénient des vidéoprojecteurs et puis de l'informatique. Osée chapitre 2, versets 21 et 22, on va le lire. Dieu qui parle à son peuple et il dit, voilà, je serai ton fiancé pour toujours. C'est pas beau ça ? C'est pas une belle déclaration d'amour ? Je serai ton fiancé par la justice, dit Dieu, par la droiture, par la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Revenons à ce texte. On l'a lu trop vite. Je serai ton fiancé pour toujours. L'amour du Seigneur est éternel. Il n'est pas éphémère. Vous savez, dans ce monde, on se rend compte que même l'amour, quelquefois, est friable, fragile. On fait un parallèle avec les couples. Combien aujourd'hui, le mariage, il est, j'ai envie de dire, jetable. Ah mais tu me conviens plus, ah mais on s'aime plus, alors on se sépare, etc. Mais c'est pas de cet amour-là dont il est fait mention ici dans ce passage. Je serai ton fiancé pour toujours. Dieu s'engage à pouvoir manifester un amour éternel à l'égard de chacun d'entre nous. Mais il va dire aussi, je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture, la grâce et la miséricorde. Et cela nous parle d'un amour qui est riche en vertu. Ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Quel jour qui est passé et qui nous a privés de la grâce de Dieu. Chaque jour, la grâce de Dieu descend sur nous. La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Quelquefois, on ne s'en rend pas compte, c'est au ciel, peut-être qu'on aura les yeux ouverts, pour comprendre que la grâce et la miséricorde de Dieu constamment descend sur nous, coule sur nous, parce que tout simplement Dieu nous aime. Il dit, je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Cet amour, il se repose sur la fidélité. C'est pas ce que l'on voit encore bien dans ce bas monde, malheureusement. C'est ce qui manque cruellement, même dans les couples, de fidélité. Mais Jésus, Dieu lui-même, dit, je serai ton fiancé par la fidélité. Jésus-Christ continue à nous aimer de son amour divin, un amour qui est éternel, un amour qui est insondable. Et je crois qu'on a besoin ce matin de retenir fermement cette vérité. Et quelle est cette vérité? Si nous sommes enfants de Dieu, si ce matin nous nous reconnaissons comme pleinement partie intégrante du corps de Christ, alors nous devons aussi savoir que nous sommes aimés de Jésus-Christ, d'un amour spécial. Il nous aime et chaque jour il prend soin de nous, plus qu'un père pourrait le faire. Chaque jour Jésus est à nos côtés et on le voit de quelle manière, Éphésiens chapitre 5, versets 29 et 30, cette fois-ci un peu plus haut. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes membres de son corps. Un autre passage qui nous prouve encore combien le Seigneur, il prend soin de nous, il est à nos petits soins, pour utiliser l'expression, psaume chapitre 37, verset 25. David qui parle et qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Voilà un homme qui a fait un constat. Il s'assoit, il analyse les croyants autour de lui, mais il analyse aussi sa propre vie. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai point vu le juste être abandonné de Dieu. C'est impossible. Quelqu'un qui me dirait, ah mais Dieu m'a abandonné, revoyez copie. Malheureusement, c'est nous qui avons tendance à abandonner le Seigneur. Mais jamais le Seigneur se joue de nous. Jamais le Seigneur ne nous abandonnera. Et il a déjà prouvé son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous dit la parole de Dieu. Voilà donc quelques preuves formelles que le Seigneur, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes chers à ses yeux, parce que nous sommes également sa fiancée, il prendra toujours soin de nous. Alors j'ai envie de dire ce matin à l'Église de Jésus-Christ, au corps de Christ, ce matin, en retour, combien plus forte raison nous devons l'aimer en retour. Et nous allons montrer au Seigneur que nous l'aimons lorsque nous mettrons en pratique ce qu'il nous demande. Là, c'est pour moi la seule preuve tangible, concrète, pour montrer que nous aimons le Seigneur. Et je me repose sur ce que Jésus lui-même a dit quand il dit dans Jean chapitre 14 et le verset 21, la vérité suivante, Jean chapitre 14 et le verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui... » Voilà, si tu veux savoir si tu aimes le Seigneur ou pas, voilà la réponse que Jésus lui-même nous accorde ce matin. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Que notre amour soit véritable, que notre amour pour le Seigneur soit profond, que notre amour soit concret à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé de trois vérités. On a vu que l'Église est le corps de Christ, le corps spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ. On vient de voir que l'Église est la fiancée de Christ. J'aimerais encore m'attarder sur une troisième et dernière comparaison qu'on pourrait faire ce matin, non pas que la liste soit exhaustive. L'Église est aussi une armée. Il y a une seule personne qui a dit amen. Joël, tu n'as pas parlé assez fort. L'Église de Jésus-Christ est une armée. Ah, j'en ai entendu un peu plus. L'Église, telle une armée, doit se lever comme un seul homme pour remporter la victoire que Jésus a d'ailleurs remportée il y a 2000 ans de cela sous la croix. Nous entrons dans sa victoire. Nous ne pourrons jamais faire plus que ce que Jésus a fait, puisque Jésus a tout accompli, il l'a dit lui-même. Parmi ces sept paroles, l'avant-dernière parole, c'est tout est accompli, tout est fait. Le diable est déjà vaincu. Jésus a dépouillé les dominations, les a livrées publiquement en spectacle. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Mais on a besoin de guerroyer, on a besoin de combattre le bon combat de la foi. Quand je lis le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et le chapitre 3, on découvre là que Jésus s'adresse à cette église locale. Et à toutes ces églises, Jésus encourage les uns et les autres à être plus que vainqueurs, à être des vainqueurs, à celui qui vaincra. Vous relirez tranquillement ces deux chapitres. Toujours en conclusion, il va dire à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Or, nous le savons, il n'y a pas de victoire sans combat. On ne peut pas être victorieux si on n'a pas combattu quelque chose. La vie chrétienne est comparable à un combat qui nous oppose aux forces spirituelles, et on y reviendra lorsqu'on parlera sur la démonologie. Il y a des forces spirituelles en présence, invisibles bien sûr, mais ô combien réelles. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 6, eh bien, nous invite à pouvoir prendre en considération, j'ai envie de dire, eh bien, carrément la teneur de ce combat, mais aussi la manière de pouvoir mener ce combat. Et on pourrait relire ce passage merveilleux, Éphésiens chapitre 6, du verset 10 jusqu'au verset, au verset 17. Du verset 10 au verset 17, lisons ensemble ce que l'apôtre Paul nous dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins, allez aidez-moi, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mais ce n'est pas fini. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous savez, l'Église est véritablement un corps d'armée aux yeux de Dieu. Et quand on voit dans l'Ancien Testament Dieu qui se présente comme l'Éternel des armées, c'est parce que derrière lui, il y a une armée. Et cette armée, elle est devant moi. Ce sont des hommes, des femmes. Vous savez, souvent, on compare l'Église à un hôpital, un lieu où les gens viennent trouver réconfort, où les gens peuvent être comme en convalescence, et ce n'est pas totalement faux. Mais l'équilibre nous invite à pouvoir aussi réaliser que l'Église est un corps d'armée composé de soldats. J'ai en face de moi des soldats, des guerriers, des guerrières. J'ai dit tout à l'heure à une sœur, toi tu es une guerrière. Et même pour certains, des kamikazes spirituels qui vont aller là où personne ne voudra aller. Quand Dieu s'est tourné vers ce petit jeune, Gédéon, vaillant héros, l'a-t-il appelé. Et le Seigneur voit une armée qui se lève, non pas avec ses propres forces, qui se lève par la foi, en comptant, alléluia, sur la grâce de Dieu. Une armée qui se lève et qui s'arme de toutes les armes spirituelles. Les six armes qu'on vient de lire ensemble dans Éphésiens chapitre 6, et également conclu par le verset suivant, où il nous est fait mention aussi de l'arme de la prière. C'est important. Quelquefois, on l'oublie. Mais la prière est une arme. L'une des armes qui nous est présentée dans ce chapitre, c'est la prière. Voici une arme qui est en même temps défensive et offensive. Quand l'Église prie, tout peut arriver. Quand un frère, une sœur prie, tout peut arriver. Dans son foyer, dans sa famille, dans son quartier. Quand une église prie, alléluia, chaud devant. Romains chapitre 15, verset 30, nous le confirme quand l'apôtre Paul va dire « Je vous exhorte, frères, ne cherchez pas, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Mardi dernier, pour ceux qui étaient là, on a passé un moment de prière formidable. Rien n'était prévu et on s'est retrouvé à prier, j'ai regardé par la suite, 1h30. Béni soit Dieu. Et plaise à Dieu que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle ces moments, car je crois que dans ces moments-là, des choses se débloquent dans le domaine spirituel. Quand nous comprendrons que notre combat n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel, nous arrêterons de nous débattre physiquement et finir par nous épuiser. Mais dans un combat de la foi, ouvrir notre bouche et laisser le Saint-Esprit parler par nous et proclamer ce que déjà le Seigneur nous a donné en héritage. La Bible dit que c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. La Bible dit aussi que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand je comprends que l'église de Jérusalem pria et Pierre fut miraculeusement libéré de sa prison, et il faut se rappeler qu'il était entouré de 4 escouades de 4 soldats, c'est-à-dire 16 soldats pour un seul homme, enfermé dans la prison. Et le soir, il dormait, on avait demandé à ce que 2 soldats puissent dormir à droite et à gauche de notre ami Pierre. En plus de ça, il était dans les fers. Mais lui, il dormait tranquillement. Et parce que l'église priait à côté, il a été littéralement délivré, libéré, non seulement de ses chaînes, mais bien de toute entrave, que Dieu soit béni. Vous pourrez relire cette histoire dans Actes chapitre 12, du verset 1 à 7. Ce n'est pas lors du culte que vous pouvez constater la bonne santé spirituelle d'une église. Alors c'est où ? Au moment de prière. L'église de Jérusalem, elle a prié et elle a vu l'exaucement à bien de ses prières. Miraculeusement, Pierre est sorti. Et si l'église 10 se met à prier, si l'église 10 répond présent au rendez-vous du Seigneur, parce que c'est l'Éternel des armées qui nous demande, qui nous convie de venir dans sa maison pour combattre le bon combat de la foi. C'est là qu'on vivra également des percées spirituelles. La réunion de prière est le baromètre de l'état spirituel d'une église. Si la réunion de prière est négligée, soyez-en sûr, le niveau du spirituel de l'église est en berne. Elle est faible. Une église qui arrête de prier, c'est une église qui est même en danger. La prière est un devoir, c'est une nécessité. Et je crois que Jésus désire voir chacun de nous dans un esprit de prière, à intercéder les uns pour les autres, à intercéder pour ce monde qui se meurt. C'est tellement, tellement important. La prière est un devoir, donc une nécessité. Jésus-Christ n'a-t-il pas rappelé que sa maison est par excellence une maison de prière ? Il faut abondamment que nous puissions ouvrir notre bouche. Et au travers de nos paroles, c'est vrai, certes, adorer, glorifier le Seigneur, mais aussi entrer dans ce bon combat de la foi en priant, en intercédant. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, a dit Jésus. Juste s'en tenir à cette promesse, mais gloire à Dieu, que nous puissions prier du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Nous ne devons pas nous désengager dans le combat de la prière, mais plus que jamais, combattre par la prière. Tout comme d'ailleurs Jésus l'a fait. Il a eu une vie de prière. Même sur la croix, Jésus a utilisé l'arme de la prière au travers de ces 7 paroles qui sont sorties de sa bouche. Et l'une des premières prières qu'il a exprimées, c'est « Seigneur Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et on a besoin de faire autant pour ceux qui nous entourent, au lieu de les juger. Mais Seigneur, sauve-les, ils ont besoin de ta grâce. Voilà, en conclusion, je dirais, frères et sœurs, le temps de l'Église sur terre, c'est certain, elle touche à sa fin. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Et il nous a déjà avertis par mille et un versets, par mille et une promesses, quand il dit par exemple à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. » Il va rajouter et il va dire « Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Et je vous prendrai avec moi. Bientôt le Seigneur reviendra. À ce moment précis, l'Église de Jésus-Christ connaîtra sa destinée finale. On l'a comparé à un corps spirituel, on l'a comparé à une fiancée, on l'a comparé à une armée. Mais sa destinée finale, elle sera lorsque Jésus-Christ apparaîtra sous les nuées. Et nous décollerons à ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, on revêtira un corps glorieux. Le livre de Corinthiens dit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous serons semblables au Seigneur. » Ah, j'ai hâte de voir ce clan glorieux, pas vous ? On sera différent, on sera comme le Seigneur. Et quiconque a cette espérance, nous dit la parole de Dieu, il se conserve pur. Vous êtes heureux si vous possédez cette espérance dans votre cœur. Mais dans l'attente, bien sûr, de cette réalisation, dans l'attente du retour du Seigneur, ce dernier, Jésus lui-même, invite tous les membres formant son corps, tous les membres formant son épouse, tous les membres formant son armée spirituelle, à veiller chaque jour. Et je voudrais juste vous laisser un dernier passage, c'est Marc chapitre 13 et le verset 35 à 35, 37. Et ce passage nous concerne tous. Jésus qui parle, il dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson. » Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, veillons, par la prière. Veillons jour après jour. Veillons, alléluia, sur les membres de nos familles. Veillons sur notre propre vie, afin que nous soyons fin prêts pour ce prochain retour, parce que Jésus-Christ viendra enlever littéralement cette parousie, alléluia, de l'Église de Christ, le corps de Christ, qui sera enlevé avec son Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu nous rappelles encore ce matin. Nous sommes tous membres de ce corps spirituel. Et toi, tu en es la tête. Nous voudrions chaque jour être en relation avec toi, en communion avec toi, attachés à toi. Seigneur, nous voudrions, Seigneur, marcher d'une manière coordonnée. Nous ne voudrions pas, Seigneur Père, nous démarquer, mais entrer dans ce corps. Et Seigneur Père, nous mouvoir, Seigneur Père, mon Dieu, avec équilibre. Et Seigneur, majestuosité, parce que Seigneur, toi la tête, tu sais, Seigneur, où tu veux emmener ton corps. Seigneur, aide-nous à réaliser ces choses, aide-nous à prendre soin des membres. Seigneur Père, formant ce corps, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs, aide-nous à toujours les bénir, car tu nous rappelles ce matin que c'est à toi que nous faisons toutes ces choses. Tu nous as rappelé avec une grande tendresse que nous sommes les uns les autres ta fiancée. Merci Seigneur. Aucun autre Dieu n'a pu dire cela à ses, Seigneur, mon Dieu, à ses serviteurs. Toi, tu nous l'as dit parce que nous sommes tes enfants. Tu nous l'as dit parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu as dit, je serai ton fiancé pour toujours. Et Seigneur, nous nous blottissons, nous nous cachons dans ces vérités. Ton amour est insondable, ton amour prend soin de nous, ton amour nous protège, ton amour, rien ni personne ne pourra nous en séparer. C'est ça la réalité. Seigneur, tu nous rappelles aussi que nous sommes cette armée. Seigneur, non pas une armée dépouillée des armes, mais tu nous rappelles les armes que tu nous as déjà données en Jésus-Christ. Et nous voudrions nous en revêtir et par excellence utiliser, abuser de l'arme de la prière. Seigneur, pardon si nous nous sommes relâchés à ce niveau. Mais plus que jamais, donne-nous à redoubler d'efforts dans la prière, afin que des situations se débloquent, afin que nous voyons ta gloire, Seigneur Père, tant dans notre vie, tant dans nos foyers, dans nos familles, autour de nous, dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre pays, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, répands sur nous un esprit de prière. Je te prie, Seigneur, mets encore une plus grande consécration dans nos cœurs. Seigneur, pour réaliser, Seigneur Père, ces saints rendez-vous où tu convies ton Église à pouvoir s'unir et combattre le bon combat de la foi, comme l'a fait l'Église de Jérusalem à l'égard, Seigneur, de Pierre qui était emprisonné. Nous voudrions libérer les captifs dans le nom de Jésus-Christ. Par le biais de la prière, nous rappeler, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix et ce que tu es encore en mesure de faire parce que tu es vivant au siècle des siècles. La mort ne t'a pas retenu, tu es vivant au siècle des siècles. Tu n'as pas changé. Seigneur, rends-nous fin prêts. Bénis-nous, bénis nos cœurs, bénis nos familles, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire. Amen.